C'était la fin de la soirée, une veille de Pâques, et Jésus avait convié ses disciples dans la chambre haute. Et là, il avait montré le comble de son amour. Il s'était déshabillé, il s'était ceint d'un linge, il a lavé les pieds à ses disciples. Il avait partagé le pain et le vin avec eux. Il avait annoncé qu'un de ses disciples allait le trahir, qu'un autre le renierait. Dans cette atmosphère chargée, il les préparait à son départ imminent et leur donnait ses instructions, plusieurs fois répétées, et la plus grande d'entre elles, « Aimez-vous les uns les autres. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Voici mon commandement. » Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Il les avait encouragés lors de cette soirée par de multiples paroles. Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne vous laissez pas effrayer, même si le monde vous hait à cause de moi. Il leur avait donné des promesses. Il est avantageux pour vous que je m'en aille. Et si je m'en vais, pas le défenseur, l'avocat ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous enverrai le Saint-Esprit. Puis, après avoir longuement parlé, Jésus a levé les yeux au ciel de manière ouverte devant ses disciples et il a prié. Père, s'il y a la diapo, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné au milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Je leur ai donné les paroles que tu m'as données. Ils les ont reçues. Ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi, et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais dans le monde, je l'ai gardé en ton nom, j'ai gardé ce que tu m'as donné, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition. Afin que l'Écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi. Je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde comme moi, je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi. Afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Lorsqu'il est dû ces choses, Jésus alla avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Seigneur, merci pour cet instant, Seigneur, où nous sommes autour de ta parole, et Seigneur, où nous touchons du cœur ton amour, ta beauté, ta gloire, et Seigneur, cette prière si magnifique que tu as fait de manière ouverte devant tes disciples et que nous avons relu ce matin, Seigneur Jésus. Seigneur, viens toucher nos cœurs par ta parole. Amen. Oui, mes amis, juste avant Gethsémané, Jésus a prié le Père devant ses disciples d'une manière totalement ouverte, simple et profonde. Il a utilisé des mots simples que tout le monde peut comprendre, mais quelle profondeur lorsqu'on s'arrête à ces mots. Il a prié pour lui-même, il a prié pour ses disciples, et il a aussi intercédé pour nous, nous qui le suivons et qui avons cru à cause de la parole de ceux qui nous ont précédés. Nous avons été bercés par la lecture de cette prière. Peut-être certaines choses ont percuté votre cœur pendant que je lisais. Peut-être même certaines choses se sont déjà enfuies de votre mémoire, de notre mémoire. Mais cette prière est formulée par Jésus de telle manière qu'elle reste quand même inscrite dans nos cœurs. Un mot revient dans cette prière. Je dirais que c'est un axe de la prière que fait Jésus. C'est le mot gloire et ses dérivés, comme le verbe glorifier. La gloire est l'axe de cette prière. Et ce matin, je vous propose tout simplement de méditer sur ce que signifie le mot gloire. Jésus a prié pour lui. Il a prié pour que le Père le glorifie, afin qu'à son tour, il glorifie le Père. Il a prié pour la gloire. Jésus a dit plusieurs choses au sujet de cette gloire. Premièrement, avant que le monde existe, Jésus possédait cette gloire. C'était la gloire de Dieu. Deuxièmement, Jésus ne possédait pas cette gloire lorsqu'il était sur la terre, puisqu'il la demande. Mais troisièmement, dans un certain sens, il possédait cette gloire dans son incarnation, puisqu'il la révèle sur la terre en terminant son œuvre. Alors comment comprendre cela? Comment le Seigneur a pu renoncer à sa gloire durant son incarnation et pourtant l'avoir possédée dans cette même période de renoncement? Alors, je suis redevable à un auteur qui est maintenant décédé, qui s'appelle James Montgomery Boyce, je ne sais pas si ça se dit Boyce, qui a écrit un commentaire sur ce passage et qui m'a fortement éclairé. Boyce fait remarquer que le mot gloire a deux sens. D'abord, le sens hébraïque, c'est peut-être celui-ci qui nous percute le plus, si vous voulez, celui qui nous vient à l'esprit quand on pense à la gloire. La gloire, c'est la lumière éblouissante de Dieu, c'est les chérubins flamboyants, c'est la nuée, c'est le goût de tonnerre, c'est le tremblement. Bref, tout ce que Moïse a pu voir sur le mont Sinaï et que le peuple n'a pu supporter. Ce que voit aussi Ésaïe et qui recule devant cette gloire car il devient conscient de son injustice. Ce que voit aussi l'apôtre Jean et qui tombe comme mort devant cette gloire qui repose sur Jésus dans le livre de l'Apocalypse. C'est cette gloire que Jésus avait avant la fondation du monde et qu'il va retrouver après sa résurrection et son ascension avec une petite nuance toutefois. C'est une gloire encore plus surélevée puisqu'il est... Il a reçu un nom qui est au-dessus de tout autre nom. On l'a chanté ce matin. Mais il y a un autre sens au mot gloire. Et nous l'avons chanté plusieurs fois ce matin au cours des cantiques que nous avons chantés. Nous donnons gloire à Dieu lorsque nous disons qui il est dans la louange. Et lorsqu'il est utilisé pour un roi ou pour Dieu, il signifie le summum de la louange. Ainsi, la gloire de Dieu est liée à ce qu'on nomme ses attributs. Ce n'est pas un mot incorrect, ce n'est pas un vilain mot. Les attributs, c'est ce que Dieu est, c'est le caractère de Dieu. Ainsi, la gloire de Dieu est liée à son caractère, à son amour, à sa sainteté, à sa vérité, à sa grâce, à sa puissance, à sa connaissance, à tout ce que Dieu est. Et quand Jésus dit « Père, j'ai manifesté ta gloire sur la terre », il dit « Père, j'ai manifesté pleinement qui tu es, j'ai manifesté ta grâce, j'ai manifesté ton amour, j'ai manifesté ta bonté ». Jésus n'est pas venu en manteau de lumière, il n'est pas descendu sur un char de feu avec ses légions d'anges. Les hommes n'auraient pas pu le supporter. Moïse a aussi vu cette gloire dans ce second sens. Il n'a pas vu simplement la lumière, les sons étourdissants, cette lumière éblouissante. Il a demandé, « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Et Dieu lui répond, « Je vais te faire voir ma gloire, mais je vais te montrer ma bonté, ce que je suis. » Et Dieu prend Moïse, le cache au creux du rocher, il l'abrite derrière sa main pendant qu'il proclame « Grâce, miséricorde, je fais grâce à qui je fais grâce, miséricorde à qui je fais miséricorde. » Moïse a touché la gloire dans ses deux sens, cette gloire resplendissante de la présence de Dieu, lorsqu'elle est là, on ne peut pas tenir, mais en même temps il a vu la gloire de Dieu dans ce second sens, dans le sens du caractère de Dieu complètement glorieux, imminemment, au-delà de toute louange. Quand Jésus changea l'eau en vin aux noces de Cana, il est dit qu'il manifesta sa gloire et que ses disciples crurent en lui. Alors je ne sais pas comment vous comprenez ce miracle. C'est un mariage, on fait la fête pendant un certain temps, puis le vin vint à manquer. C'était quelques jours après que le mariage a commencé, n'est-ce pas? Ce n'est pas une fête de mariage comme nous, on peut la vivre durant peut-être 24 heures. Là, c'était un mariage qui durait pendant un certain temps. Le vin va t'en manquer. Il n'y a aucun enjeu dans ce signe-là, dans ce premier miracle où Jésus manifeste sa gloire. Il n'y a aucun caractère vital. Jésus change l'eau en vin. Il aurait pu ne pas le faire, la fête se serait arrêtée, le mariage aurait eu lieu, la vie aurait continué, il n'y avait rien de grave à ce que le vin manque. Mais le Seigneur a manifesté sa gloire. Alors pour moi, je vous livre mon opinion personnelle. Si vous avez une autre théologie, ce n'est pas grave. Ce n'est pas tant le fait qu'il peut effectivement changer l'eau en vin qui est sa gloire, mais le fait qu'il manifeste sa bonté au milieu des hommes, en partageant leur quotidien, en partageant leurs préoccupations les plus banales, les plus triviales, comme le fait de manquer de vin simplement lors d'une noce. Quelle leçon pour nous ! Jésus s'intéresse à toutes les affaires de nos vies, les petites comme les grandes. Est-ce que le Seigneur ne nous a pas dit qu'il était rempli de sollicitude ce matin ? Rempli de sollicitude pour les petites choses dans lesquelles nous vivons ? Ne disons pas « c'est trop petit pour Dieu ». Dieu ne s'intéresse pas à cette affaire banale de ma vie parce que c'est trop trivial, c'est trop banal, c'est pas grave. Ne laissons pas Jésus à la marge de nos vies parce que nos vies, pour la plupart d'entre nous, est une somme de toutes petites choses, n'est-ce pas ? Et pourtant Jésus y est invité à y participer et à entrer dans nos vies, même les plus banales. Continuons notre réflexion sur la gloire. Jésus prie, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin qu'il te glorifie. » La question que je me pose, c'est quelle est cette heure ? On comprend que c'est l'heure de la croix. Mais en quoi la croix est-elle une plus grande manifestation de la gloire de Dieu ? Les amis, on a pris la Sainte Cène, moment très précieux pour la communauté, où nous manifestons que nous sommes redevables au bénéfice de ce que Christ a fait pour nous. Eh bien, à la croix, nous voyons la sainteté de Dieu comme nulle part ailleurs. À la croix, nous voyons la sainteté de Dieu qui a horreur du péché, qui a la haine du péché, mais qui aime le pécheur. Nous voyons que Dieu refuse de faire des compromis avec le péché. Le péché doit être expié afin qu'il soit couvert par la justice de Dieu. À la croix, nous voyons la justice de Dieu se manifester dans sa condamnation du péché, exerçant même sa colère sur son Fils qui a porté nos péchés. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et enfin, nous voyons l'amour de Dieu dans le coût énorme qu'il a payé pour notre rédemption. Si Jésus s'était arrêté loin de la croix, si Jésus avait dit à Gethsémané, « Eh bien non, finalement, je n'y vais pas. Je n'y vais pas à la croix. » Cela aurait prouvé qu'il y a un degré d'amour auquel Dieu n'est pas prêt à aller pour nous. La croix est la preuve de l'amour de Dieu pour vous, pour moi, pour nous. Romains 5, verset 8. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Waouh ! Comment pouvons-nous douter encore de son amour pour nous ? On est humain. Quand je doute de son amour pour moi, je n'ai qu'une seule chose à faire, c'est me tourner vers la croix et de contempler à nouveau ce que Christ a fait pour moi. Si vous êtes dans le doute, si vous dites « Je vis une telle catastrophe, ce n'est pas possible que Dieu m'aime », regarde à la croix, parce que Jésus est mort pour toi à la croix. Jésus a prié pour les siens. Il demande que sa gloire se manifeste parmi les siens et parmi ceux qui croiront en leur parole. Jésus est glorifié en nous et il nous a donné sa gloire. Mes amis, on n'est pas environné de lumière, même si Nicolas nous a conduits sur le chemin de la lumière. On n'a pas eu de tremblement de terre ce matin, heureusement pour nous. Heureusement Fred, hein ? C'est le président hein, de l'Assemblée chrétienne. Mais je peux dire que nous avons touché sa gloire ce matin. Et cette gloire se manifeste précisément aussi par le caractère de Jésus que nous manifestons les uns envers les autres. La croix a pour conséquence la vie éternelle. Et comme on le rappelle souvent aux nouveaux convertis, aux nouveaux croyants, la vie éternelle, ce n'est pas simplement la vie que l'on aura après la mort. Ça va ? Vous êtes tous OK avec moi dans ce côté-là, hein ? La vie éternelle, c'est la nouvelle vie que Dieu a placée en nous et qui se développe petit à petit, peu à peu, et qui nous transforme à l'image de Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. Et vous savez comment elle grandit, cette vie éternelle en nous ? Eh bien, elle croît en proportion de notre connaissance de Dieu. La vie éternelle, Jésus priait, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Mes amis, nous devenons ce que nous contemplons. Waouh, je l'ai bien dit ? Juste, Chantal m'a dit. Mes amis, nous devenons ce que nous contemplons, ce que nous chérissons, ce que nous affectionnons. C'est l'apôtre Paul qui dit ceci, « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Alors il s'agit d'une transformation peu à peu, incomplète durant cette vie, mais un jour, on sera semblable à lui, car nous le verrons face à face, totalement dans la gloire. Waouh ! Alors, frères et sœurs aussi, cette transformation individuelle, ce n'est pas un dessein individuel. On est loin de l'affirmation de soi, de l'auto-accomplissement, de l'auto-réalisation. On est même très loin du moi tout-puissant. Jésus prie pour la gloire qui se trouve dans l'unité des croyants. Il l'avait dit plus tôt dans cette soirée à ses disciples. C'est à l'amour que vous avez les uns pour les autres que l'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Alors tuons dès maintenant trois fausses idées sur l'unité. L'unité, ce n'est pas l'uniformité. Merci Seigneur que vous ne me ressemblez pas tous. Ce serait horrible. Non pas que je suis horrible, mais bon, j'aime bien voir des têtes différentes, des visages différents, des prières différentes, voilà, des dons différents. Le Seigneur aime ça. L'unité, ce n'est pas avoir la même doctrine, la même opinion à la virgule près sur toute chose. On peut avoir des divergences sur telle ou telle question, mais pour les choses principales, ça, oui, on est d'accord. Les choses secondaires, l'amour est de rigueur. Troisième fausse idée sur l'unité. L'unité n'est pas un rêve utopique, un idéal à atteindre. L'unité, elle est spirituelle. Elle est en Christ. Et elle ne se fait pas avec des gens parfaits. Elle se vit lorsque nous nous tournons, comme nous l'avons fait ce matin, à la croix, vers Jésus, parce que c'est lui qui nous unit. Nous apprenons à vivre l'unité en vivant sous la croix, dans le pardon et la grâce, avec mes frères et mes sœurs qui sont pécheurs, comme moi je le suis, pareil. Un témoignage personnel. La semaine dernière, j'étais à la pastorale de la Fédération Baptiste à Paris, où je vous représentais. Nous avions une soirée de prière assez libre avec des temps de silence et de prière intérieure. Alors que mes pensées, lorsqu'on est dans le silence, des fois ça arrive, hein, alors que mes pensées étaient en train de divaguer et de flotter dans le rien, dans le silence, je me surprends à penser « j'ai autant de valeur qu'un autre ». Et puis là, il y a une alarme intérieure, je pense celle du Saint-Esprit, qui résonne en moi. Non, le Seigneur demande que l'on estime l'autre supérieur à soi, plus excellent que soi, au-dessus de soi. Philippiens 2, 3, « Ne faites rien par esprit de parti, par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ayez le modèle de Jésus-Christ, lui qui était dans la gloire, est devenu serviteur. » Waouh. Alors, comprenez-vous, parce que je le vaux bien, c'est de la publicité. Je vaux aussi bien qu'un autre, c'est de la psychologie humaniste. L'autre au-dessus de toi, c'est l'Évangile. Et Jésus l'avait pratiqué à cette fameuse soirée, sans se dévaloriser, sans avoir revêtu un habit de déprime ou un sentiment d'infériorité. Il s'est déshabillé, il s'est ceint d'un linge, il a lavé les pieds à ses disciples, de celui qui allait le trahir, de celui qui allait le renier, de ceux qui allaient le laisser seul à Gethsémané. Il a lavé les pieds de ses disciples imparfaits, de ses disciples loin du rêve de ce que peut être un disciple idéal. Disciple imparfait, mais disciple aimé. C'est ça la gloire de mon Sauveur. C'est cela dont parle cette prière que Jésus a faite dans Jean 17. Et c'est cela aussi la gloire de l'Église dans l'unité. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.